Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et au sommaire du bulletin de ce jeudi 1er mai, les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord établissant un fonds d'investissement dans la reconstruction, a déclaré le ministre américain des Finances, Scott Bessent, dans un message vidéo. En Australie, la coalition fédérale annonce qu'elle va supprimer les baisses d'impôts du Parti travailliste et les programmes de dépenses clés afin d'améliorer le budget en cas de victoire aux élections. L'équilibre des pouvoirs au Sénat pourrait s'avérer déterminant pour la formation du prochain gouvernement australien, avec une diversité de candidats en lice pour exercer une influence à la Chambre haute. Les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord établissant un fonds d'investissement dans la reconstruction. C'est ce qu'a déclaré le ministre américain des Finances, Scott Bessent, dans un message vidéo.
I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a convoqué une réunion de son cabinet alors que le gouvernement rapporte que l'économie américaine s'est contractée à un rythme annuel de 0,3% au cours des trois premiers mois de l'année. Ce déclin s'explique par une forte hausse des importations, les entreprises cherchant à devancer les droits de douane sur l'automobile, l'acier, l'aluminium et la quasi-totalité des produits importés. Donald Trump a imputé les mauvais chiffre à son prédécesseur Joe Biden, qui a quitté le pouvoir en janvier dernier.
And I have to start off by saying that's Biden, that's not Trump, because we came in on January, this is the quarterly numbers, and we came in and I was very against everything that Biden was doing in terms of the economy, destroying our country in so many ways.
En Australie maintenant, avec les élections fédérales, la coalition annonce qu'elle va supprimer les baisses d'impôts du Parti travailliste et les programmes de dépenses clés afin d'améliorer le budget en cas de victoire. Samedi, les estimations complètes des coûts révèlent des projets de suppression d'au moins deux fonds hors budget du Parti travailliste, dont le Fonds pour l'avenir du logement australien, doté de 10 milliards de dollars, est destiné à la construction de 30 000 logements. Sont également sur la sellette 16 milliards de dollars destinés à l'allègement de la dette étudiante, des allègements fiscaux pour les comptes de retraite de plus de 3 millions de dollars et le fonds d'infrastructure Rewiring the Nation. La coalition affirme que son plan ajouterait au moins 10 milliards de dollars au budget sur 4 ans et va réduire la dette de 40 milliards de dollars. La ministre des Finances du Parti travailliste, Katie Gallagher, a déclaré ce matin sur Channel 9 que les premiers chiffres de l'opposition étaient une arnaque.
5 million people have voted and the costings still aren't out. We don't know what they're going to cut. We don't know how much nuclear is going to cost in terms of how much they've allocated in the budget. But we do know that student debt's going to rise, housing's going to be cut, and income taxes are going to go up. So I think, you know, we'll see later today when these numbers come out.
Le porte-parole de la coalition, Angus Taylor, réagit aux propos de Katie Gallagher selon lesquels les premiers chiffres de l'opposition sont, selon elle, une arnaque. Angus Taylor est apparu sur Channel 9 ce matin aux côtés de Madame Gallagher.
All lies from Katie. And the important point here is this. By bringing down our debt and bringing down the deficits, we bring down interest rates, inflation, and we put the economy and our country in a position where it can grow, we can get investment.
L'équilibre des pouvoirs au Sénat pourrait s'avérer déterminant pour la formation du prochain gouvernement, avec une diversité de candidats en lice pour exercer une influence à la Chambre haute. Alors que l'attention se porte sur la composition du gouvernement à la Chambre basse, les élections de samedi vont déterminer également la moitié du Sénat, soit 6 sièges dans chaque État et 2 dans chaque territoire du pays, avec des mandats échelonnés, préservant au moins 12 sénateurs travaillistes, 14 sénateurs de la coalition, 5 sénateurs verts et 5 sénateurs indépendants. La composition finale dépendra des 40 nouveaux membres élus ce week-end. Le nombre de voix nécessaires à l'adoption d'une loi reste limité à 39 sénateurs et sénatrices. Les Verts ont officiellement lancé leur campagne électorale, une dernière occasion pour ce parti de mobiliser ses partisans avant samedi. Dans une élection dominée par les préoccupations liées au coût de la vie, les Verts affirment que leurs politiques progressistes vont améliorer la situation des électeurs. Leurs politiques comprennent l'extension de Medicare à la couverture des soins dentaires, l'augmentation des impôts pour les milliardaires et les grandes entreprises et la lutte contre l'accès au logement. Alors que le risque d'un Parlement sans majorité absolue se profile, le chef des Verts, Adam Bent, affirme que les grands partis ne parviennent pas à proposer des idées audacieuses.
Politics and election campaigns should be about reaching for the stars, like laying out a vision of how in this wealthy country of ours we can set ourselves up for the future and ensure that everyone can afford the basics. But instead, over the last 5 weeks, the Australian public has had to endure the battle of the band-aids, this contest between the timid and the terrible.
Jim Chalmers, le trésorier, se dit optimiste quant à l'économie suite à l'indicateur des prix à la consommation de la Reserve Bank qui se situe dans la fourchette de 2 à 3%. Les dernières données sur l'inflation du Bureau des statistiques montrent que l'inflation est tombée à 2,9% sur une base annuelle. Il s'agit du taux d'inflation le plus bas depuis le trimestre de décembre 2021 et pourrait ouvrir la voie à une baisse des taux d'intérêt de la Reserve Bank en mai. Jim Chalmers affirme que ce résultat prouve que l'approche du Parti travailliste en matière de gestion économique fonctionne.
I'm optimistic about our economy and I'm proud of the progress that Australians have made together. And I find that the progress on inflation has been especially encouraging. It's a demonstration of the progress we've made together. It's proof of the responsible way that we've been going about managing the economy in uncertain times.
Angus Taylor, le porte-parole de la coalition, affirme que les chiffres de l'inflation sont supérieurs à la fourchette prévue par la Reserve Bank. Il a soutenu que cela démontre l'existence de problèmes que le Parti travailliste n'a pas su résoudre.
Services inflation remains above the target range. Goods inflation is up. So the warning signs are here that inflation, as we've seen historically, when you've had a surge of it, the risk is it comes back again. And as I say, the only person who doesn't believe that is the Treasurer because he simply doesn't understand economics.
Le chef de l'opposition Peter Dutton a exclu la formation d'un gouvernement minoritaire avec One Nation, malgré l'accord de préférence conclu entre la coalition et le parti de Pauline Hanson. L'opposition a placé le parti populiste de droite en deuxième position sur ses cartes électorales dans plusieurs circonscriptions marginales suite à une forte hausse de soutien pour One Nation, selon les sondages. Peter Dutton affirme que la sénatrice Hanson ne ferait pas partie d'un futur gouvernement de coalition en cas de parlement sans majorité absolue.
Given the preference deal that's been done, if the coalition does form government, will she have a seat at your cabinet table?
Of course not. And we've said right at the start that if you want to change government, you want to get our country back on track, then vote for your Liberal or National Party candidate. I wouldn't be mucking around with independents and third parties at this election. I really wouldn't. We don't want to see a European situation where you've got a handful of Greens and left-leaning teal candidates who are holding the government to ransom.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a refusé de spéculer sur la date à laquelle le Premier ministre pourrait à nouveau s'entretenir avec le président américain Donald Trump. Depuis l'imposition des droits de douane le 2 avril, il y a eu plusieurs tentatives pour organiser une discussion avec le président américain. Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu'il s'attendait à une discussion après samedi prochain, lorsqu'il sera possible de savoir si son gouvernement a été réélu. La ministre Penny Wong a toutefois indiqué sur SBS que la seule question qu'elle commenterait serait la position de l'Australie sur les droits de douane.
I'm not going to speculate about calls between leaders, but I would say to you, we've made our position on tariffs clear. We've made our position on how Australia will deal with that, and our response, the Prime Minister Albanese's response, has been firm and clear.
Alors que le débat sur l'impact du télétravail sur la productivité et l'économie se poursuit, une nouvelle étude du Comité pour le développement économique révèle que les personnes qui travaillent à domicile économisent environ 5 300 $ par an. Le Comité pour le développement économique en Australie indique que ses employés peuvent travailler près de 20% d'heures de plus que ceux qui travaillent au bureau. Il a également constaté que les modalités de travail flexibles ont augmenté la participation au travail de plus de 4% après la pandémie de COVID-19. James Brooks, économiste au CEDA, affirme que les modalités flexibles élargissent les perspectives d'emploi.
The likelihood that they're in a job at all has actually increased. So this is a function of a tight labour market and demand for workers, but it's hard to ignore that working from home has given more people opportunities, so they're able to find more jobs which are suited to them.
Le dirigeant du Cachemire sous administration pakistanaise appelle à une médiation internationale et affirme que le gouvernement prépare une réponse humanitaire en cas de nouveau conflit avec l'Inde. Le porte-parole du Kremlin affirme que si le président Poutine est ouvert à la paix en Ukraine, le conflit est si complexe que l'accord rapide recherché par Washington est difficile à obtenir. Le président américain Donald Trump, qui affirme vouloir la paix, est de plus en plus frustré ces dernières semaines par l'échec de la conclusion d'un accord. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirme que si la Russie préfère atteindre ses objectifs par la voie pacifique, elle a le devoir de remporter la victoire militaire sur l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les progrès dans la résolution de la guerre dépendaient de la décision de la Russie de faire le premier pas en acceptant un cessez-le-feu inconditionnel. Le Vietnam a célébré en grande pompe les 50 ans de la chute de Saigon qui mettait fin à des décennies de guerre au Vietnam. Mais quelques semaines avant l'échec de sa présence militaire au Vietnam, les États-Unis mobilisaient 2 milliards de dollars pour une large opération humanitaire surnommée Baby Lift. L'objectif était d'évacuer plus de 3000 orphelins. Grâce à des archives et des témoignages, Chi Phuong Nguyen de la rédaction en vietnamien de RFI a remonté le fil de cette histoire. Précision de Nicolas Rocard pour RFI.
Début avril 1975, Philip Wise, infirmier militaire américain, apprend qu'il participera à une gigantesque opération d'évacuation.
Le commandant a dit « Écoutez, Saigon va bientôt tomber et il y a un groupe d'orphelins métis américains qui sont piégés dans Saigon. Ils doivent être évacués immédiatement. »
Des enfants de soldats ou des orphelins partent avec un premier avion. 300 personnes sont à bord quand quelques minutes après le décollage, l'appareil atterrit en catastrophe dans une rizière. Devaki Murch était à bord.
J'étais un des enfants embarqués dans l'avion. Nous avons eu de la chance que le pilote parvienne à atterrir en urgence. Le compartiment réservé aux soldats est resté debout. S'il avait basculé ou s'il s'était brisé, il y aurait peut-être eu plus de dégâts.
Plus de 150 personnes meurent. Les enfants survivants sont adoptés aux États-Unis ou en Europe. Sandy Kersi arrive en France. Plus tard, devenue adulte, elle retourne au Vietnam à la recherche de ses origines.
J'ai retrouvé en fait ma nourrice. Et un jour, elle m'a dit, mais tu sais, quand j'étais avec justement les responsables d'associations, ben, on savait que si on allait voir telle dame, un échange de quelques centaines de dollars, on savait qu'on pouvait avoir des bébés, quoi, des nourrissons.
Présentée comme une opération humanitaire en Occident, au Vietnam, l'affaire est aussi perçue comme un kidnapping de masse. Certains des enfants n'étaient pas orphelins.
Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie, à Perth, il fera 31 degrés, Adelaide 21, Melbourne 18, Hobart 15, Canberra 17, Sydney 20, Brisbane 25, Darwin 33 et à Alice Springs maximale de 23 degrés. Voilà, fin du journal, merci de l'avoir suivi. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.